Est-ce que vous m'entendez? Un petit peu. Les personnes du... Ah, voilà. Le son est en train de venir tout doucement. Merci à votre sonorisateur. Il m'a équipé. Il a pris soin de moi. Il m'a pris par la main, presque jusqu'au pupitre. Est-ce que vous allez bien? Oui? Vous avez une bonne église. C'est précieux d'avoir une bonne église. Hein. C'est précieux d'être béni. Et je suis vraiment trop gâté. Hein. Oh là 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 là. Ouais, c'est parfait. C'est une église high-tech. Hein. On est vraiment heureux d'être parmi vous. On est venu de Belgique, on a fait la routière. Ça nous a quand même pris 7 bonnes heures de route avec les 5 enfants dans la voiture, mais ça va, ils ont été sages. Ça nous est déjà arrivé de faire des routes vraiment catastrophiques. Là, ça a été. Et puis, on avait hâte d'arriver à ce moment de retrouver Robert et Marie-Annick qu'on avait déjà rencontrés il y a un an, ils étaient venus à Moucron, et puis de rencontrer aussi l'église, de retrouver Jean-Marc et Joël. Alors, est-ce que tout le monde parmi vous connaît Jean-Marc et Joël? Oui, vous les connaissez bien maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont avec vous. Et bien voilà, puisque j'ai été pendant un certain temps le berger de Jean-Marc et Joël, je veux vraiment vous dire merci de les avoir accueillis. C'était vraiment une joie pour nous de savoir qu'ils avaient trouvé une assemblée. Et chaque fois qu'ils revenaient à Moucron, qu'on avait l'occasion de partager avec eux, ils nous disaient combien ils apprécient leur assemblée, combien ils vous aiment, combien ils se sentent bien au milieu de vous, combien ils se sentent à leur place. Alors, souvent dans nos cultes, on applaudit le Seigneur, parfois on applaudit un prédicateur. Les bons prédicateurs disent « gloire à Dieu » dans ces cas-là. Mais on ne prend pas toujours assez de temps pour s'applaudir les uns les autres. Est-ce qu'on peut s'applaudir les uns les autres? On s'applaudit parce qu'on reconnaît les uns dans les autres un cadeau que Dieu nous fait pour notre croissance spirituelle, pour notre marche avec lui. Dieu nous a donné les uns aux autres pour qu'ensemble on puisse grandir. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. Alors, quand je suis invité dans une église, depuis quelques années, le Seigneur m'a donné comme une mission, comme un mandat. Et j'ai partagé avec Robert pour quelque part avoir son accord. Et cette mission, c'est de vous parler de comment Dieu a agi dans ma vie. Comment Dieu, je vais vous raconter des événements qui datent d'il y a 14 ans, comment Dieu s'est manifesté à moi à ce moment-là précis de ma vie. Et puis, à partir de ce témoignage que je veux partager avec vous, je voudrais partager quelques vérités bibliques sur un thème bien particulier, le thème de l'épreuve, le thème de la souffrance. Peut-être vous allez croire qu'avec Dominique, qui conduisait la louange ce matin, avec Robert, avec les frères et sœurs qui ont prié durant le temps de louange de manière spontanée, vous allez peut-être croire qu'on s'était arrangé, mis d'accord, parce qu'il y a vraiment une conduite de l'Esprit-Saint. Et dans les choses que je vais partager avec vous ce matin, il y a pas mal de redites par rapport à ce qui a déjà été dit. Alors, soyez attentifs, je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen.
Amen.
Amen. Alors, voilà. Oui, j'ai pas pris le temps de présenter quand même Clémence. Elle aime toujours quand je fais ça, lève-toi.
Ouais.
Voilà. Vous avez eu l'occasion de voir un peu, d'entendre peut-être nos 5 enfants, 5 merveilleuses bénédictions. Même si parfois c'est pas évident. Mais la bénédiction de Dieu parfois, ouais. Notre coupe déborde. Hein, donc voilà. Et puis juste quelques mots sur notre assemblée. Elle s'appelle le Centre Vie Chrétienne. C'est le Centre Vie Chrétienne à Moucron. C'est mon papa qui a démarré cette assemblée. Ça va bientôt faire 20 ans. En 98. En Belgique on dit 98, mais pendant le voyage je me suis entraîné à être bilingue. Il a démarré l'église en 98, et puis quelques années après, il était à peu près 10 ans après la fondation de l'église, il est tombé malade, assez gravement malade, et c'est dans ce contexte-là que j'étais appelé au ministère pastoral. Clémence pensait que jamais je serais pasteur, elle était vraiment très contente. Mais non, le Seigneur m'a choisi comme pasteur, et puis voilà. Vous êtes très silencieux, ça se passe bien. Hein. Vous inquiétez pas, hein, ça... Le Seigneur nous a confirmé dans cet appel et vraiment on s'épanouit dans le ministère pastoral, même si ce n'était pas notre idée de départ. Et voilà, donc une assemblée avec 100-150 membres, et on vit de belles choses aussi là, à Moucron. Alors, voilà, je vais vous parler comment Dieu a travaillé ma vie il y a 14 ans. Comment il s'est manifesté à moi au milieu de cette épreuve-là, comment il s'est manifesté à nous. Clémence et moi étions mariés depuis 2 ans, c'est ça, hein, chérie, depuis 2 ans. Voilà, vous savez, dans le psaume 23, David parle de l'épreuve et il utilise une image qui est assez forte. Il dit, c'est comme la vallée de l'ombre de la mort. Et je pense que tous dans nos vies, il y a ces moments qui sont comme des vallées de l'ombre de la mort, où on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait même pas est-ce que ça peut s'arrêter. Comment je vais en sortir de cette vallée? Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu dans cette épreuve? Et c'est vraiment ce qu'on a vécu. En fait, à cette époque-là, j'avais 22 ans, donc vous pouvez calculer rapidement mon âge. Si vous n'êtes pas bon au calcul, demandez à votre voisin. Voilà, alors je venais de terminer mes études en lettres. En Belgique, on appelle ça philologie romane. Je pense que ça doit être les lettres modernes ou quelque chose comme ça pour être prof de français. Et on était mariés depuis juste 2 ans, un jeune couple. Et à cette époque-là de ma vie, j'avais des migraines depuis 5 ans. Des migraines, je pense que tout le monde a déjà eu une migraine. C'est quand même un problème de santé assez fréquent. Ça peut être lié à plein de choses. Et puis ben, dans mon cas, je vivais avec ces migraines. J'avais pris l'habitude de croquer des aspirines. J'avais toujours un tube d'aspirine sur moi. Je n'avais pas toujours de l'eau, donc je les croquais comme ça. 5-6 aspirines par jour. Mais les migraines s'accentuaient. Et même, je commençais à avoir des problèmes de vue, des problèmes de surdité, des problèmes d'équilibre. Ça devenait quand même assez sérieux. Et comme Clémence était encore étudiante, moi, je venais de terminer mes études. On n'avait pas été suivi par un médecin pendant plusieurs années, donc je n'avais jamais fait d'examen vraiment approfondi. On a pris rendez-vous pour faire un scanner, donc ça faisait plusieurs années que j'étais malade. On a pris un rendez-vous, et à la sortie du local d'examen, là où on avait fait le scanner, là où j'avais fait le scanner, le médecin nous attendait, l'air grave, et puis il nous a dit, vous savez, sur le scanner, je vois qu'au niveau de votre cerveau, il y a une tache sombre, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il va falloir faire davantage d'examens. C'est quand même assez grave. Et 3 jours plus tard, on était à la clinique universitaire à Bruxelles, la clinique Saint-Luc. Et à partir de ce moment-là, on commençait tout plein d'examens. Et puis assez rapidement, ça a révélé que j'avais une tumeur au cerveau. Et une tumeur vraiment grave, puisqu'elle était là depuis plusieurs années. Elle était déjà vraiment volumineuse. Et elle écrasait tout plein de nerfs dans mon cerveau, d'où les problèmes de vue, d'équilibre et d'audition. Et donc je me suis retrouvé là dans une chambre de cet hôpital, et le neurochirurgien qui allait m'opérer est arrivé. J'étais avec ma famille, ma belle famille, et pour détendre un peu l'atmosphère, on plaisantait. Et alors quand le neurochirurgien est entré dans la chambre, suivi de tous ses assistants, pour ceux qui ont regardé la série Dr House, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ce neurochirurgien-là, il y a eu une émission à TF1 il y a quelques années, il était surnommé le Dr House belge. Mais en effet, il entre dans la chambre, on était en train de plaisanter. Il se met contre le mur, il nous regarde, et puis il dit « J'espère que vous vous rendez compte de la gravité de la situation. » On était calmés. Et alors pendant les 2 semaines qui ont suivi, ils ont fait tout plein d'examens, et tous les jours, les médecins, le neurochirurgien ou ses assistants venaient dans ma chambre pour m'expliquer que l'opération était vraiment risquée parce que la tumeur était au niveau du tronc cérébral, à l'arrière du crâne, là où tous les nerfs s'entremêlent pour rentrer dans la colonne vertébrale. Et donc, en ôtant la tumeur, ils pouvaient endommager à peu près tous les nerfs du cerveau. Donc, jour après jour, ils venaient me voir pour dire, vous allez peut-être être aveugle, vous allez peut-être être paraplégique, vous allez sans doute avoir une paralysie du visage, vous allez peut-être mourir. Et donc, jour après jour, ils venaient m'expliquer cette situation. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont dû connaître des situations comme ça. On est à l'hôpital et les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais quelque part, l'inquiétude aurait dû grandir et me submerger, mais j'ai vraiment expérimenté la paix de Dieu. Je me sentais vraiment en relation étroite avec le Seigneur, et je sentais que sa présence était là, qu'il y avait la paix de Dieu avec moi. Et puis, vous savez, à ce moment-là de ma vie, j'ai pas bien expliqué ça. Comme j'étais étudiant, mon but dans la vie, c'était le succès dans le domaine intellectuel. J'avais travaillé énormément pour être parmi les meilleurs étudiants de ma promotion. J'aurais voulu faire un doctorat. Et donc, j'avais sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour pour être le meilleur quelque part. J'avais vraiment cette ambition qui était devenue réellement de l'orgueil, de l'égocentrisme. On était mariés depuis peu de temps et j'avais négligé vraiment Clémence. Je l'avais laissée sur le côté pour me consacrer à mes études. C'était mon obsession. À côté de ça, j'aimais Dieu. Je connaissais Dieu depuis des années. Mais Dieu, dans ma vie, il avait été détrôné quelque part. C'était le succès intellectuel, c'était l'idée de briller, d'être quelqu'un d'important. Et je pensais y être arrivé. Je pensais être quelqu'un qui, par ses efforts, pouvait se montrer brillant et meilleur que les autres. Et à ce moment-là de ma vie, tout s'est écroulé. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais construit, tout ça ne tenait plus qu'à un fil, plus à presque rien, durant ces semaines d'examens médicaux. Et puis, le jour de l'opération est arrivé, et j'y reviendrai tantôt. Simplement, c'était tôt le matin, donc j'étais seul avec Clémence, et en partant vers le bloc opératoire, je me souviens lui avoir dit « j'ai la foi ». C'est important parce qu'on ne sait pas toujours très bien comment on va réagir dans l'épreuve. Et je sais qu'à ce moment-là, au moment de partir au bloc opératoire, je ne savais pas si j'en reviendrais. Et je n'étais pas convaincu que Dieu m'en ferait revenir. Je n'étais pas convaincu que je ne serais pas handicapé, paralysé, toutes ces choses qui m'avaient été annoncées. Mais j'avais l'assurance que Dieu veillait sur moi. Et c'était tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Là, ils ont commencé à m'opérer. Ils m'ont opéré toute une journée pendant 8 heures. Et puis en fait, en ouvrant mon crâne, comme il y avait un gros afflux de sang dans le crâne, le neurochirurgien ne parvenait pas à voir clairement ce qu'il était en train de faire. Et il craignait d'endommager des nerfs importants au niveau du cerveau. Donc après 8 heures d'opération, il a pris la décision de boucher une artère pour arrêter l'afflux de sang. Mais en bouchant cette artère, il ne savait pas si j'y survivrais. Vous savez, les artères du cerveau sont évidemment importantes. Et donc, il a bouché l'artère. Ils sont sortis voir ma famille et Clémence qui était dans le couloir, qui avait attendu toute la journée. Ils leur ont dit, écoutez, rentrez chez vous. On a bouché une artère, il est dans le coma. On va essayer de le réveiller, de lui faire faire quelques mouvements cette nuit. On vous appellera pour vous dire s'il a survécu. On ne sait pas s'il va survivre. Donc vous imaginez toute une journée d'attente sans savoir comment ça va se passer, puis ils sont renvoyés. Vous, c'est facile parce que vous me voyez, vous connaissez la fin de l'histoire. Vous ne la connaissez pas. Et donc voilà, ils m'ont réveillé cette nuit-là et ça allait. Le lendemain, ils ont recommencé pendant 14 heures. Donc l'opération a duré 22 heures en tout. Et puis voilà, l'opération était faite, ils avaient enlevé la tumeur. Je me suis retrouvé aux soins intensifs avec tout plein de tuyaux. Et là, évidemment, mes souvenirs sont un peu confus parce que j'étais sous morphine. Mais ce dont je me souviens, en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience de ces, vous savez, ces passages de la Bible qui disent que la vie de l'homme, elle est comme un souffle, comme l'herbe qui fleurit et qui disparaît aussitôt. J'ai vraiment pris conscience que ma vie, c'était rien du tout. C'était juste un souffle, tellement fragile. Et quelque part là, aux soins intensifs, complètement dépendant du soin des infirmières, complètement dépendant des médicaments qu'on me donnait, tout ça, je me disais, j'avais cette pensée que je n'allais pas m'en sortir. C'est bizarre, hein, quelque part je me préparais à rejoindre le Seigneur. Et à nouveau, j'étais pas terrifié. J'avais la paix, j'avais du chagrin pour les personnes que je laisserais. J'éprouvais du chagrin parce que je me disais, ma vie, elle n'a pas servi à grand-chose. J'ai construit beaucoup, j'ai voulu être le meilleur, et puis j'ai l'impression que ma vie va s'arrêter, qu'il n'y a rien de consistant derrière moi. Mais quelque part, je savais que ma vie était entre les mains de Dieu. Et puis, c'était au soin intensif. Après, je suis remonté en chambre, c'était à l'étage supérieur. Bon, là, il y avait la souffrance physique qui est progressivement revenue. J'ai fait une méningite consécutive à l'opération. Et puis, je ne pouvais pas marcher. Je voyais vraiment trouble, je ne pouvais pas lire. Tout mon côté gauche était un peu lent, comme ankylosé. Donc c'était quand même des jours assez difficiles. Et puis progressivement, peu à peu, il y a vraiment une volonté de vivre qui a commencé à grandir en moi. Et vraiment, j'étais motivé pour la kiné, j'étais motivé pour l'ergothérapie. La diététicienne de l'hôpital n'a jamais vu quelqu'un qui, dans un hôpital, demande plus de nourriture. J'avais faim. Et puis c'est vraiment une belle période de ma vie, c'était comme une renaissance, comme si j'avais une nouvelle chance de vivre quelque chose, de vivre avec mon épouse, avec ma famille, avec le Seigneur. Et j'étais vraiment, vraiment heureux. Et puis, faut que je m'y retrouve dans mes notes. Oui, quelques mois plus tard, donc après quelques semaines, j'ai pu sortir de l'hôpital. Quelques mois plus tard, Clémence, ma femme, Clémence est tombée enceinte de notre premier enfant. Vous savez, on s'était dit, on va voyager, on va profiter de la vie avant d'avoir des enfants. Et puis, aux soins intensifs, j'ai pensé, non, je veux donner une autre tournure à ma vie. Je veux que ma vie soit différente. Je veux pas construire mes projets comme on les avait pensés. Et donc, on a voulu avoir un enfant. Et le Seigneur nous a fait cette grâce, parce que suite à l'opération, avec les rayons et tout ça, ça aurait dû être très compliqué. Mais non, 3 mois plus tard, elle était enceinte. Et notre premier enfant, Julia, est né 1 an jour pour jour, après le scanner qui avait révélé la tumeur. Et le neurochirurgien qui m'avait opéré se disait agnostique. Moi, je lui avais parlé de ma foi en Jésus, mais non, lui, il n'était pas croyant, ça ne l'intéressait pas. Et dans les années qui ont suivi, chaque fois que je dois encore toujours maintenant, de temps en temps, retourner faire des contrôles, et donc ils font une résonance magnétique pour voir si tout va bien. Et dans les années qui ont suivi, je lui disais, mais vous voyez, docteur, vous voyez, Dieu existe, Jésus est là, vous voyez comme je vais bien. Mais il n'acceptait pas trop. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je parlais avec lui et je lui ai dit, mais dites-moi, à la fin du premier jour d'opération, qu'est-ce qui vous a poussé à boucher une artère? C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'était une décision dangereuse. Et puis il m'a regardé, il a dit, je ne sais pas, une aspiration. Je me suis dit, amen. J'ai pensé, amen. Voilà. Et quand je repense à ces événements que je vous ai racontés très rapidement, là maintenant, quand je repense à tout ça, je vois vraiment la main de Dieu dans cette situation, dans cette épreuve. Je vois la main de Dieu dans le fait que j'avais la paix, que je me sentais protégé par lui. Je vois la main de Dieu dans les personnes, le personnel médical, le neurochirurgien, les infirmiers, les infirmières, même mon voisin de chambre. Je voudrais juste dire un petit mot sur cet homme, il s'appelait Roland. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais il était médecin, il travaillait pour Médecins Sans Frontières. Et quand je suis arrivé, il était déjà hospitalisé. Il avait une maladie qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est une paralysie des muscles qui démarre à partir des pieds. Et donc les personnes qui ont cette maladie-là, à un moment donné, doivent être sous assistance respiratoire parce que les muscles qui contrôlent la respiration, le système respiratoire, sont paralysés aussi. Et cet homme-là, il avait été tellement sportif qu'il n'avait pas besoin d'aide respiratoire. Mais plusieurs fois, chaque nuit, les infirmiers et les infirmières arrivaient en urgence pour le réanimer parce qu'il était en train d'étouffer. Et cet homme était vraiment gentil. Il n'était pas chrétien, mais il était là. Alors vous savez, quand les médecins arrivaient, ils m'expliquaient assez froidement les choses. Ils m'expliquaient tous les risques, toutes les conséquences possibles de l'opération d'une manière très, très froide et impersonnelle. Et après, lui, comme il était médecin, il me réexpliquait ce qu'ils avaient dit, mais avec douceur. Et puis un jour, je me souviens, je m'étais un peu caché, je m'étais retourné parce que j'étais en train de pleurer. C'était des moments difficiles. Et puis il m'a dit, tu sais Pierre, il ne faut pas te cacher, il ne faut pas avoir honte, il y a beaucoup de larmes qui ont été versées dans cette chambre. Et cet homme-là, pas chrétien, c'était comme un ange que le Seigneur avait mis à côté de moi. J'ai vraiment vu le Seigneur à travers plein de coïncidences, une infirmière chrétienne qui venait me voir, toute une série de choses. J'ai vraiment vu la main de Dieu. C'est ce que je veux développer avec vous. Quand je repense à ces événements, je me dis, mais le Seigneur était là et à mon avis, jusqu'à la fin de mes jours, je n'aurais pas terminé de déchiffrer l'impact bénéfique de cette épreuve dans ma vie. Ça m'a vraiment transformé, ça m'a rendu plus émotif et sensible. Là, Clémence, au moins, tu peux dire amen. Beaucoup plus émotif. Dans les semaines qui ont suivi l'opération, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. Une fois que je commençais à rire, je pouvais plus m'arrêter. Si quelque chose me touchait, m'émouvait, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. La première fois qu'on a eu une petite dispute, j'ai dû m'asseoir parce que j'avais le tournis à cause de la colère. Donc vraiment, les émotions, je reste vraiment très, très émotif, mais très sensible par rapport à ce que les autres vivent. Beaucoup plus fragile physiquement, mais plus fort en tant qu'enfant de Dieu. Je pense plus fort en tant que mari, plus fort aussi en tant que serviteur de Dieu. Et c'est tellement enraciné, écrit en moi que Dieu m'aime. C'est tellement profond dans mon cœur, cette assurance que Dieu m'aime passionnément. Et je voudrais poursuivre avec quelques vérités bibliques sur ce que Dieu fait dans nos épreuves. Comment Dieu agit au milieu de nos épreuves, au milieu de nos souffrances. Quelques vérités bibliques, parce que ce que j'ai expérimenté, ce que je pense tous vous avez expérimenté, quand l'épreuve vient dans nos vies et quand on passe par des moments de souffrance, on est secoué, et puis parfois, même si on connaît la Bible, même si on connaît Dieu, on est tellement perturbé, secoué, qu'on oublie des choses évidentes, des vérités fondamentales et basiques. Et je voudrais rappeler quatre vérités pour que vous puissiez vous y accrocher. Peut-être que dans votre lecture de la Bible, ce sont des vérités qui vous ont déjà interpellé. Peut-être qu'il y a d'autres vérités qui vous semblent importantes. En tout cas, ces quatre vérités-là, depuis ces événements, et avec le temps, et dans la prière et la réflexion, ces quatre promesses de Dieu, quatre vérités sur Dieu que je ne veux jamais oublier et dont je veux me souvenir dans mes temps d'épreuve. Et alors que je savais que j'allais partager mon témoignage avec vous et je réfléchissais au thème de la souffrance et de l'épreuve, cette semaine, j'ai une conviction en moi qui grandissait que c'est ce que le Seigneur veut dire à votre assemblée, ce qu'il veut nous dire à chacun d'entre nous ce matin. J'avais cette conviction, mais aussi dans ces derniers jours, on est passé par des moments difficiles et ce message et ces pensées nous ont fait beaucoup de bien aussi. La première vérité est toute simple, c'est que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alors là, c'est le moment de... Vous pouvez poser la main sur votre poitrine et vous pouvez dire « Dieu m'aime ». Dieu vous aime. Vous pouvez regarder votre voisin et dire « Dieu t'aime ». Mais dites-le avec conviction. Et alors là, vous pouvez répondre à votre voisin « Toi aussi ». Oh, Dieu m'aime. Dieu nous aime, c'est tellement évident. C'est tellement évident et puis pourtant, quand on est dans l'épreuve, on a parfois l'impression que Dieu, il est insensible ou indifférent. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Parfois même, j'entends, quand je parle avec des frères et sœurs en Christ, parfois j'entends, mais Dieu me punit. Parfois, il y a même des serviteurs de Dieu qui ont enseigné ça, que la maladie dans une vie, parfois c'est comme une punition de Dieu. Et pourtant, c'est tellement évident, Dieu m'aime, Dieu nous aime. On peut être perturbé, on peut oublier cette pensée, mais c'est une première vérité, Dieu m'aime. Dans la lettre de Jacques, je vous invite à prendre ce passage-là dans votre Bible. Tantôt, en parcourant les rangées, j'ai vu que vraiment un grand nombre d'entre vous avez votre Bible avec vous, et vous étiez en train de suivre dans votre Bible. C'est vraiment... Vous n'êtes pas encore contaminé par la Bible sur smartphone. La Bible sur smartphone, c'est très bien. Sauf quand on reçoit des SMS en même temps. Parce que là, ça distrait. Alors, Jacques écrit « Mes frères », donc on est dans Jacques chapitre 1, le verset 2. Jacques dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Déjà, ça commence fort. Il dit, vous avez des épreuves, vous passez par des moments douloureux, des moments de souffrance, regardez-les comme des sujets de joie complète. Et ce qui suit est vraiment intéressant pour nous. Jacques dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et quand on lit ça, on comprend. Jacques ne dit pas, l'épreuve produit la patience. Il dit, l'épreuve de votre foi. Ce n'est pas l'épreuve tout court. Autrement dit, qu'est-ce qui est attaqué chez nous, chez un enfant de Dieu, chez un chrétien, un croyant? Qu'est-ce qui est attaqué quand on traverse l'épreuve? C'est notre foi. Qu'est-ce qui est pressurisé? Qu'est-ce qui est mis sous pression? C'est notre foi. Autrement dit, notre confiance en Dieu. Quand on traverse l'épreuve, c'est à ce moment-là... Ça va, ça siffle un peu? Il n'y a personne qui a mal aux oreilles? Un petit peu quand même. Ouais. Je vois que le sonorisateur est en train de suer là. Qu'est-ce qui est mis sous pression? Ah là, c'est mieux. Ah, merci. Qu'est-ce qui est mis sous pression? C'est notre confiance en Dieu. Notre confiance en l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. On connaît ce verset. Dieu est amour. Autrement dit, Dieu est 100% bon. Il est 100% gentil. C'est drôle d'utiliser cet adjectif-là pour Dieu, mais Mais c'est vrai, Dieu est 100% bon, gentil, bien intentionné. Il n'y a pas une once de jalousie, une once de rancune ou d'amertume dans le cœur de Dieu à notre écart. Il est 100% amour. Et dans nos moments de difficulté, qu'est-ce qui se passe ? On commence à mettre en doute son amour, à mettre en doute sa bonté, sa gentillesse envers nous. Et la Bible nous dit que le diable, l'ennemi de nos âmes, est déterminé à nous détourner de l'amour de Dieu. Même si rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, le diable cherche à nous en détourner. Et c'est quelque chose qu'on voit assez clairement dans la Bible. La première fois où le diable apparaît, c'est dans le jardin d'Éden, et il va à la rencontre de Ève. Et on connaît ce passage, hein. On en parle à l'école du dimanche. On voit le diable qui s'approche. Il est représenté sous la forme d'un serpent. Et la Bible nous le décrit comme un serpent. Et puis, il commence à dire à Ève, mais est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous n'avez pas le droit de manger de ce fruit-là ? Et si vous connaissez l'histoire, elle continue en lui disant, mais non, en fait, Dieu vous a menti. Parce qu'il sait que si vous mangez de ce fruit-là, vous allez devenir intelligent, tout-puissant, vous serez aussi grand que lui. Et donc, le diable est en train de détourner Ève de sa compréhension de Dieu comme un père, de Dieu comme son créateur, de Dieu comme son ami, comme un Dieu qui est bon. Il est en train de lui dire, mais Dieu, il est loin, il est indifférent, il est jaloux, il veut protéger son pouvoir. Il est en train de détruire l'image que Ève a de Dieu. Et quand on passe par l'épreuve, qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes est en train de faire ? Il est en train de détruire l'image qu'on se fait de Dieu. Il parvient à influencer nos pensées en nous faisant voir Dieu comme quelqu'un qui peut-être nous veut du mal, comme quelqu'un qui peut-être nous punit, comme quelqu'un qui peut-être est indifférent à notre souffrance, comme quelqu'un peut-être qui peut-être n'est pas suffisamment puissant pour nous en délivrer. Dans le livre de Job, c'est le plus vieux livre de notre Bible, et dans le livre de Job, on voit, vous savez, Job, c'est un livre compliqué. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà lu le livre de Job en entier. C'est pas un livre qui est facile à lire. Mais il y a des choses vraiment précieuses dans le livre de Job. Et quand je parle avec des chrétiens, des frères et des sœurs qui traversent des moments de souffrance, très souvent, ils disent « mais je trouve du réconfort dans le livre de Job ». Et le Seigneur a permis qu'il y ait un livre dans notre Bible, un livre entier, qui nous parle de la souffrance de quelqu'un qui aime Dieu et qui souffre presque du début à la fin du livre, qui cherche à comprendre, qui ses amis viennent le voir et plutôt que de l'encourager, ses amis l'enfoncent davantage, justement en lui disant peut-être que tu as péché et que Dieu te punit, et des choses comme ça. Merci Seigneur pour le livre de Job. Et le premier chapitre se termine avec cette vérité, donc on est dans Job chapitre 1, verset 22. Un jour, ça m'a vraiment interpellé. À ce moment-là, le diable a lancé contre Job toute une série d'attaques. Une première salve d'attaques et d'épreuves lancées contre Job, et cet homme a tout perdu. Il a perdu toute sa richesse, et le chapitre 1 se termine avec ce verset-là. « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Le chapitre 2 aussi nous dit, donc chapitre 2, la fin du verset 10, « En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Donc l'épreuve continue et Satan va réellement tout prendre à Job. Il va lui prendre ses richesses, il va lui prendre ses enfants, il va lui prendre sa santé, il va tout lui prendre. Mais à plusieurs reprises, on nous dit, Job ne pécha pas par ses lèvres, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. On peut comprendre que le but de l'ennemi, ce n'est pas la souffrance de Job. La souffrance de Job, elle est un moyen pour son vrai but. Le vrai but de l'ennemi, c'est que Job, que chacun d'entre nous, dans l'épreuve, on se tourne vers Dieu et on lui dit, c'est ta faute ce qui m'arrive. Ce qui est en train de m'arriver, c'est toi qui le veux. Cette maladie que je traverse, ce problème dans ma vie professionnelle, ce problème dans mon couple, ce problème dans ma famille, c'est de toi que ça vient. La souffrance, elle frappe les gens à l'extérieur, les gens du monde, ceux qui ne croient pas. Et la souffrance frappe les enfants de Dieu. C'est une réalité. Autour de moi, il y a des chrétiens qui... même qui ont des désirs tellement légitimes, de trouver un conjoint qui aime Dieu. Et ils ne trouvent personne, ils restent dans le célibat, ils en souffrent. J'ai des frères et sœurs qui veulent avoir un enfant et ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas d'enfant. J'ai des frères et sœurs qui veulent trouver un travail et ils n'en trouvent pas. J'ai des frères et sœurs dans l'Église qui prient pour que leurs enfants se tournent vers Dieu et leurs enfants sont loin de Dieu. La souffrance est une réalité. Et quand on traverse ça, quel est le but de l'ennemi? Qu'on se tourne vers Dieu et qu'on lui dise « c'est ta faute ce qui m'arrive ». Qu'on attribue à Dieu quelque chose d'injuste. Voilà. Et Jacques, on a lu une partie de la lettre de Jacques, Jacques justement va contrer cette tentation, cette possibilité qu'on attribue à Dieu quelque chose d'injuste en disant que personne parmi nous, quand il est éprouvé, quand il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me fait passer par là ». Jacques dit « Dieu ne tente pas et il n'est lui-même pas tenté par l'épreuve ». Alors, pour nous, c'est difficile à comprendre. Comment un Dieu tout-puissant peut me laisser passer par la maladie et ne rien faire? Ce qui est sûr, c'est que Dieu permet l'épreuve. Ce qui est sûr aussi, c'est que Dieu agit à travers l'épreuve. Mais ce qui est faux, c'est que Dieu nous envoie cette épreuve. La Bible dit que Dieu est un père, qu'il est un papa. Il y a même des passages de la Bible qui comparent Dieu à une maman. Nous, on a 5 enfants, vous les avez vus. J'imagine qu'il y a beaucoup de parents parmi vous. Est-ce que vous pouvez vous manifester, les parents? Lequel d'entre nous, père et mère, donnerait une tumeur au cerveau à son enfant pour lui apprendre quelque chose? On ne fait pas ça. Dieu est notre Père et il nous aime. Et quand on passe par l'épreuve, Dieu manifeste son amour, il manifeste sa présence parce qu'il nous aime. C'est une première vérité. Le psaume 139 dit que Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Quelle belle image. Il nous a tissés dans le ventre de nos mamans. Quand Clémence était enceinte de notre premier enfant, on a eu l'occasion d'aller souvent chez le gynéco avec nos 5 enfants. Avec les 5 grossesses. Mais il y a ce moment, vraiment, c'est un moment magique pour moi en tant que papa. C'était la première échographie. Et puis, à l'écran, on ne voit rien du tout. On voit un point. C'est le gynécologue qui nous explique ce point-là, c'est le bébé. Mais il nous a fait écouter son cœur. Et alors là, quand j'ai entendu poupon, 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 mon cœur a fondu. Parce que pour un papa, c'est quand même abstrait hein, pendant quelques mois. Mais là, quand j'ai entendu les battements de son cœur, j'étais déjà amoureux de ma fille. Déjà, je ne savais même pas que c'était une fille. Déjà, je l'aimais. Alors Dieu qui nous a tissés dans le ventre de nos mères, vous imaginez ce qu'il ressent. Quand on passe par l'épreuve, vous imaginez ce que Dieu ressent. Je crois que quand on vit des moments difficiles, le premier qui a le cœur brisé, c'est notre Père céleste. Je crois que quand on est à genoux et qu'on pleure, j'ai cette conviction qu'il est à genoux avec nous et qu'il pleure, même s'il connaît toutes choses, même s'il est au contrôle de tout. Quand j'étais dans cette chambre d'hôpital, j'avais la conviction qu'il était avec moi et que ce moment, il n'était pas rigolo pour lui, que c'était un moment difficile pour lui aussi, parce qu'il m'aime, parce qu'il nous aime. Et pour terminer avec cette première vérité, je voudrais juste citer ce verset dans le livre d'Ésaïe. C'est au chapitre 49, simplement, je vais le citer. Dieu dit, et prophétise sur son peuple, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu dit, est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une maman peut oublier son enfant qui sort de ses entrailles? Et Dieu continue en disant, même si une maman oubliait son enfant, même si une maman pouvait oublier son enfant, moi je ne t'oublie pas, parce que ton nom est gravé sur mes mains. Quelque part, sur les mains de Dieu. Ces mains qui ont été percées à la croix. Il y a Pierre qui a écrit, il y a Jean-Marc, il y a Marie-Annick, il y a chacun d'entre nous. Nos noms sont gravés sur les mains de Dieu. Dieu nous aime. Une deuxième vérité qui peut nous échapper dans l'épreuve, c'est que Dieu nous accompagne. Dans le psaume 23 qu'on a cité tantôt, David dit « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » On peut citer la fin du verset ensemble, « Car il est avec moi. » Je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il m'accompagne. Il n'est pas dans le ciel, bien au-delà de ma vallée, il est dans la vallée, avec moi. Il m'accompagne. Emmanuel, ça veut dire « Dieu est avec nous ». Donc le titre de Jésus, ce titre de Emmanuel, c'est cette affirmation que Dieu m'accompagne, que Dieu est avec moi. La Bible dit, au psaume 34, verset 19, « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Qu'est-ce que ce simple verset, qu'est-ce qui nous fait du bien de se dire « Dieu, il n'est pas du côté... » Si Dieu doit choisir une chaise ce matin, il ne va pas aller s'asseoir à côté de celui qui se sent bien, celui qui est en bonne santé. Il va aller à côté de celui qui a le cœur brisé ce matin. Il va aller à côté de celui qui a l'esprit dans l'abattement. Le lieu que Dieu choisit pour se manifester, c'est à côté de celui qui souffre. Dieu m'accompagne. La Bible dit que le Saint-Esprit est un consolateur. Donc le cœur de Dieu, c'est de venir près de nous, de consoler, de prendre soin de nous quand on a mal, quand on souffre. La parole de Dieu va encore un cran plus loin en disant que Jésus a souffert en toutes choses comme nous. C'est dans la lettre aux Hébreux, où l'auteur de la lettre dit « Mais Jésus est un grand sacrificateur bien particulier parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. » Parfois, on voit Jésus comme un super-héros. Quelqu'un, c'était facile pour lui de résister au diable, c'était facile pour lui de résister à la tentation. C'était facile pour lui de donner sa vie à la croix, mais non, c'était un homme comme chacun d'entre nous, humain, il a souffert, il a été tenté d'abandonner, tenté de prendre des raccourcis, des chemins plus faciles, mais il a tenu bon, il a souffert comme nous. Et vous connaissez cette prophétie de Ésaïe qui dit « Et il a porté à la croix le châtiment qui nous était destiné. Il a porté les offenses que nous commettons, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Donc Jésus était plus loin encore que de souffrir avec nous, il a pris nos souffrances. Et aujourd'hui encore, Jésus prend nos souffrances sur lui. Amen. Ce n'est pas toujours facile de déposer nos souffrances aux pieds de Dieu. Je pense d'ailleurs, durant le temps de louange, je crois que c'est ce que Dominique disait. Il parlait de cette idée d'apporter nos souffrances à Jésus, d'apporter nos souffrances à Dieu. Et vraiment, on peut en être déchargé. Si je ressentais cette paix quand j'étais hospitalisé, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui a une foi plus élevée que la norme. Je suis quelqu'un de tellement naturel, tellement charnel quelque part. Si on me dit, mais tu risques de mourir, d'être handicapé. Le fait que j'avais cette foi, je pense que c'était une grâce de Dieu. Je pense que c'est vraiment Jésus qui est venu et qui a porté ce fardeau pour moi. Je vous avais dit que j'y reviendrais. J'avais cette assurance que si je mourais, je rejoindrais Dieu. Et que je serais vraiment dans le bien-être avec Dieu. Je savais qu'il avait des plans pour moi bien au-delà de cette terre et qu'il y avait une vie qui continuait pour moi au ciel. Si jamais j'étais handicapé, je savais que Dieu sera avec moi, qu'il ne m'abandonnerait pas. Et je savais qu'il était capable de guérir. Ma foi reposait pas simplement sur la guérison, mais sur la certitude que Dieu agit. Et le Seigneur prend sur nous notre souffrance. Il nous entoure de sa présence et puis parfois il va utiliser... Je vous ai parlé de mon voisin dans la chambre d'hôpital. Il va utiliser quelqu'un près de nous pour nous bénir. Il va utiliser des gens, il les place autour de nous pour nous faire du bien. Il met comme un filet de sécurité autour de nous quand on est dans l'épreuve. Une troisième vérité, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour nous à travers l'épreuve. Amen. Amen. Quand on traverse des moments de souffrance, c'est bon de se rappeler, c'est difficile ce que je suis en train de vivre. Mais Dieu a un plan et il va se manifester à travers ce que je suis en train de vivre. Romains 8, 28, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, de celui qui est appelé selon son plan, etc. Vous connaissez ce verset. Derrière chaque problème, derrière chaque épreuve, Dieu a un plan pour nous. Et il va utiliser les circonstances pour nous façonner. Ça ressemble à... C'est tellement une tragédie, une catastrophe quand on traverse l'épreuve et pourtant Dieu transforme cette épreuve en bénédiction pour nous. Je vous ai dit combien ce que j'avais traversé, j'aimerais pas devoir repasser par là. Mais je voudrais pas ne pas y être passé. Parce que ça a fait de moi la personne que je suis. Dieu a transformé cette épreuve en bénédiction et c'est ce que Dieu fait avec nos problèmes et avec nos souffrances. Il nous touche et il nous façonne davantage à travers nos problèmes qu'à travers la Bible. Parce que nos problèmes, on y est confronté 24 heures sur 24. Ou presque. Et Dieu les utilise pour façonner ce qu'il veut façonner en nous. La Bible dit, pas un moineau ne meurt sans que le Seigneur ne le sache. Que même nos cheveux sont comptés. Il connaît toutes choses et il a un plan pour tout ce qui nous arrive. Alors parfois, quand avec Clémence, on est en amoureux l'un avec l'autre et on se sent bien, on est soudés, et Clémence dit « Ah ben, je comprends pourquoi on est passé par là, parce que ça nous a vraiment soudés en tant que couple. » Et elle a raison. Mais je pense que c'est juste un aspect de l'œuvre de Dieu dans nos vies à ce moment-là. C'est un peu comme si on a une pièce de puzzle entre nos mains. Et je crois que tous en tant que chrétiens, on vit des moments, il nous arrive des choses, et puis parfois on regarde cette pièce de puzzle, et puis on se dit, mais ça fait partie de quel plan d'ensemble? Comment est-ce que la volonté de Dieu va se manifester à travers ça? Ma sœur et mon beau-frère sont partis en mission en République centrafricaine il y a 6 ans, et ils avaient tout abandonné pour servir Dieu. Ils avaient vraiment tout laissé derrière eux, ils avaient laissé leur travail, ils avaient tout abandonné pour servir Dieu en Afrique. Et puis en fait, ça s'est très mal passé. Ils ont été manipulés, ils ont été abusés par quelqu'un qui prétendait être un serviteur de Dieu, qui leur a fait vraiment énormément de tort. Et puis ils sont revenus brisés en 1000 morceaux dans notre assemblée. Il a fallu des années pour qu'ils puissent se reconstruire. Et il y a à peu près quelques mois, ça va faire 1 an en fait. Moi, je m'étais toujours dit, mais c'est comme si ça avait été un avortement. Si Dieu leur a donné ce projet-là, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et quand je parlais avec eux, c'était la pièce de puzzle. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que Dieu nous a fait passer par là. C'était vraiment incompréhensible pour eux. Et puis il y a 1 an, ils ont croisé un couple missionnaire. Ils ont échangé les numéros de téléphone. Et ce couple-là était dans une mission qui s'appelle la WEC, une organisation mondiale. Et quelques mois après, ils partaient au Sénégal, soutenus par cette organisation. Et il a fallu toutes ces années, mais aujourd'hui, je crois, ils comprennent pourquoi, enfin, en tout cas, comment Dieu a utilisé ce qu'ils ont traversé. Et ils vont, alors ça, c'est pour Clémence et moi, c'est quand même assez dur à vivre, parce qu'ils vont partir au Sénégal pour une longue période ici. Ils ont été 4 mois, ils vont y repartir. Donc on perd un couple précieux dans l'Église, et puis, enfin, on les perd. Ils ne seront plus là, toujours à côté de nous. Mais parfois, on ne comprend pas. C'est quoi cette pièce de puzzle? Comment Dieu va utiliser ça? Comment Dieu va utiliser cette œuvre-là dans nos vies? En fait, nos vies sont, c'est pas des puzzles sans pièces. C'est des puzzles avec une infinité de pièces. Et Dieu a tout ça entre les mains. Il est au contrôle de tout ça. Il y a une théorie selon laquelle on est à 6 poignées de main de n'importe qui sur la Terre. Vous avez déjà entendu ça? C'est un psychologue et puis il y a des chercheurs qui ont essayé de prouver ça. Donc ça veut dire que Robert est à 6 poignées de main de Donald Trump, selon cette théorie. Autrement dit, Robert connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Vous voyez, il y a comme ça quelques maillons jusqu'à Donald Trump. Dis-lui bonjour de ma part. Prie pour lui. Donc voilà, donc on est quelque part liés les uns aux autres. Et vous voyez, quand Dieu touche une vie, c'est pas juste une vie qui touche. Quand Dieu manifeste son plan dans une vie, c'est pas juste un individu qui touche. Mais comme par onde ou par effet domino, c'est le monde entier qui est touché. Ce que Dieu a fait dans ma vie, ça a touché mon épouse, ça a touché ma famille, ça a touché mon église, ça touche mes collègues, ça touche mes enfants. Chaque fois que je peux en parler, ça touche. Et Dieu a utilisé ça. Toutes les conséquences de cette épreuve ont été conduites et dirigées par Dieu. Et tout ce qui a précédé était préparé aussi par Dieu. Un jour, on retournait pour faire un examen à Bruxelles. C'était un de ces examens de contrôle. Et puis, on traverse la commune où Clémence avait été accueillie. En fait, nous, on habitait à presque 1 heure de route de l'hôpital. Et quand j'étais hospitalisé, c'était terrible de se dire « Mais Clémence ne pourra pas être près de moi. Elle va devoir faire 1 heure de route. Ça va être compliqué. » Et puis là, on a des amis qui ont dit « Mais non, Clémence peut venir loger chez nous tout le temps qu'il faudra. » Et en fait, ce n'était pas n'importe quels amis, puisque c'était vraiment des amis proches. Et c'était un couple, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient emménagé, non chrétiens. Mais la femme, elle était psychologue. Et l'homme, à ce moment-là, il était pas avec un emploi qui lui demandait beaucoup de temps. Donc non seulement ils ont accueilli Clémence, mais ils l'ont écoutée, ils ont pris soin d'elle, ils l'ont distrait, ils l'ont nourri. Et ces gens-là habitaient à 5 minutes de l'hôpital. Donc Clémence, il suffisait qu'elle marche un peu, elle pouvait venir me voir à l'hôpital. Et un jour, voilà, quand j'essaye de ne pas me perdre, encore moins de vous perdre, Un jour, on retourne à l'hôpital, on passe pas loin de l'appartement. Et puis, il y a cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que Dieu, quand nos amis ont trouvé cet appartement, est-ce que Dieu ignorait qu'un jour, à 5 minutes de là, il y a un de ses enfants qui aurait besoin de la présence de son épouse? Dieu le savait. Et comme ce sont nos amis, on sait qu'ils ont, de la misère à trouver cet appartement, qui en fait avait été acheté 50 ans plus tôt par des tantes de l'homme, de Bernard, notre ami. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, donc, 50 ans plus tôt, quand des femmes qui ne connaissent rien à l'Évangile ont décidé d'acheter cet appartement à cet endroit-là, est-ce que quelque part Dieu ne savait pas qu'un jour, un enfant qui lui appartient serait à 5 minutes de là et aurait besoin de la présence de sa femme? Vous voyez, Dieu prépare toute chose. Il est en contrôle de tout. Il contrôle avant et il contrôle après. Dieu a un plan à travers nos épreuves. Et une dernière vérité importante, et je vais être assez bref avec cette vérité-là, c'est que Dieu combat pour moi. Dieu combat pour chacun de nous. Quand on passe par des moments d'épreuve, on a besoin de se souvenir que Dieu m'aime. On a besoin de se souvenir que Dieu m'accompagne, que Dieu a un plan et que Dieu combat pour moi. Parce que confronté à l'épreuve, on peut vraiment être tenté de baisser les bras, de se résigner, de se dire c'est comme ça. Quoi que j'y fasse, c'est comme ça. Face à la maladie, face à quand une famille est brisée par des disputes, par des tensions, par l'adultère et des choses comme ça, on peut vraiment être tenté de baisser les bras et dire bon ben, tant pis, c'est comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu dit que le plan de notre Père se réalise avec nos prières, que le plan de Dieu implique nos prières. Vous connaissez ce verset qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». L'apôtre Paul dit « En toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. En toutes circonstances, dites à Dieu ce dont vous avez besoin. Demandez à Dieu, priez pour la guérison, priez pour être libéré de nos souffrances ». Prier et rester fidèle dans la prière, ça fait partie intégrante de notre relation normale avec Dieu. Il n'y a rien dans la Bible qui peut nous convaincre de se résigner, et de se dire, mais bon, voilà, tant pis, je souffre, et c'est comme ça. Prier et demander à Dieu la libération, ça fait partie de notre relation avec lui. Jésus nous a appris à prier que ta volonté soit faite. Pourquoi Jésus nous aurait dit, ben, quand vous priez, dites, que ta volonté soit faite, priez pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, si nos prières n'y changeaient rien. Si on prie que ta volonté soit faite, c'est bien que nos prières peuvent amener la réalisation de la volonté de Dieu dans nos vies et sur la terre. Que ta volonté soit faite. Et il y a un verset dans Exode, chapitre 14, qui dit, on va le prendre ensemble, dans Exode, au chapitre 14, les versets 13 et 14, moi, j'ai mis des signés, alors c'est plus facile à trouver. Exode, chapitre 14. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, vous n'aurez pas à intervenir. » L'Éternel combat pour nous. Et je terminerai avec cette pensée qui m'a interpellé il y a quelques années. On traversait des moments difficiles dans notre ministère. Et c'était des moments où je ne me sentais vraiment pas plus que vainqueur. Il y a des moments dans notre vie chrétienne où on se sent fort, solide, plus que vainqueur. On proclame que Dieu va remporter la victoire. Là, ce n'était vraiment pas du tout le cas. Je me sentais vraiment comme quelqu'un qui était brisé, qui était cassé, qui était à genoux. Et en parcourant la Bible, je lis les messages de Dieu aux sept églises. Vous savez, au début du livre de l'Apocalypse, les messages de Dieu aux sept églises, et dans chaque message adressé à Dieu, il y a toujours cette pensée qui revient et qu'on peut résumer comme ça. À celui qui tiendra bon jusqu'au bout, je donnerai la couronne de vie. Et cette pensée m'est venue et je me suis dit, mais je me sens cassé, je me sens à genoux, je me sens vraiment pas victorieux. Mais je vais tenir bon jusqu'au bout. Peut-être que ce sera à genoux, parfois, mais je garderai ma confiance en Dieu. Je resterai fidèle. Et vous voyez, parfois, dans nos vies, on traverse ces moments où il n'y a rien à faire. On est dans la vallée de l'ombre de la mort. On ne peut pas être dans le déni. On passe par là. Gardons confiance en Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'accompagne. Dieu a un plan pour moi dans l'épreuve. Et Dieu combat pour moi. Amen. Et, j'aimerais peut-être prier avec certains d'entre vous. Quand je préparais le message, j'avais cette pensée que vraiment plusieurs avaient besoin de la prière. Et je voudrais partager une pensée. Je crois que le Seigneur m'a parlé pour l'un ou pour plusieurs d'entre vous. C'est vraiment une pensée un peu particulière. C'est pour ça aussi que je la partage. Que, comme si quelqu'un souffrait de discrimination ou de racisme. Je ne savais pas s'il y avait des gens de différentes cultures dans l'Église, mais j'avais cette pensée comme si quelqu'un dans le domaine professionnel souffrait vraiment d'être rejeté, peut-être dans d'autres domaines aussi, en raison de qui il est. Moi, j'avais cette pensée de discrimination et de racisme. Ça peut être une épreuve. Et j'aimerais prier avec cette personne. Je vous invite peut-être, si Dominique peut reprendre le clavier et si on peut courber la tête, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour ta présence à côté de chacun d'entre nous, Seigneur. De la même manière qu'au jour de la Pentecôte, tu t'es manifesté avec des langues de feu sur chacun des croyants, tu te manifestes dans nos vies jour après jour par une présence pleine de compassion, par une présence pleine d'amour. Ta parole dit que tu prends plaisir à prendre soin de nous, tu prends plaisir à nous pardonner, tu prends plaisir à nous consoler, à nous restaurer, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te demande de poser ta main sur chacun ce matin et toi qui connais le secret de nos cœurs, tu vois ceux qui sont venus à l'église avec un cœur brisé. Tu vois ceux qui sont venus dans cette assemblée pas en sautillant, pas avec un cœur léger, mais comme s'il y avait des boulets, des chaînes qui étaient attachées à leurs pieds. Et le simple fait de venir à l'église coûte quelque chose parce qu'il y a ce poids derrière eux. Tu connais les blessures, tu connais nos épreuves, Seigneur. Et ta parole dit que tu veux guérir, que tu veux manifester ton amour, que tu veux nous accompagner, nous porter dans l'épreuve. Seigneur, vraiment, répands ta grâce au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. On peut sentir ta présence qui agit au milieu de nous.